autour de Marie. Feuilleton en 5 épisodes, d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint, publié aux éditions de Minuit. Lecture par Jean-Philippe Toussaint. Enregistré en public au Musée Calvet, dans le cadre du Festival d'Avignon. Deuxième épisode, Fuir.
Serait-ce jamais fini avec Marie ? L'été précédant notre séparation, j'avais passé quelques semaines à Shanghai. Ce n'était pas vraiment un déplacement professionnel, plutôt un voyage d'agrément, même si Marie m'avait confié une sorte de mission. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Le jour de mon arrivée à Shanghai, Chang Changshe, relation d'affaires de Marie, va m'accueillir à l'aéroport. Je ne l'avais vu qu'une fois auparavant à Paris, dans les bureaux de Marie, mais je le reconnus tout de suite. Il était en conversation avec un policier en uniforme, juste derrière les guérites de contrôle des passeports. Il devait avoir une quarantaine d'années, les joues rondes, les traits empâtés, la peau lisse et cuivrée, et portait des lunettes de soleil très noires qui couvraient le haut de son visage. Nous attendions ma valise en bordure du tapis roulant, et nous avions à peine échangé quelques mots en mauvais anglais depuis mon arrivée, qu'il m'offrit un téléphone portable. « Present for you », me dit-il. Ce qui me plongea dans une extrême perplexité. Je ne comprenais pas très bien l'urgence qu'il y avait à me doter d'un téléphone portable, un portable d'occasion assez moche, gris terne, sans emballage ni bonne d'emploi. Pour me localiser en permanence, surveiller mes déplacements et me garder à l'œil, je ne sais pas. Je le suivais en silence dans les couloirs de l'aéroport et je ressentais une inquiétude diffuse, encore renforcée par la fatigue du voyage et la tension d'arriver dans une ville inconnue. Je lui remis l'enveloppe en papier Kraft que Marie m'avait confiée pour lui, qui contenait 25 000 dollars en liquide. Il l'ouvrit, fit glisser le pouce sur le tranchant des coupures pour recompter rapidement les billets et referma l'enveloppe, qu'il rangea dans la poche arrière de son pantalon. Je n'ignorais pas que Chang Changshe menait depuis quelques années des opérations immobilières en Chine pour le compte de Marie, peut-être douteuses et illicites, location et vente de baux commerciaux, rachat de surfaces constructibles dans des zones désaffectées, le tout vraisemblablement entaché de corruption et de commissions occultes. Depuis ses premiers succès en Asie, en Corée et au Japon, Marie s'était implantée à Hong Kong et à Pékin et avait souhaité acquérir de nouvelles vitrines à Shanghai et dans le sud du pays, avec des projets déjà bien avancés d'ouvrir des succursales à Shenzhen et à Canton. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais entendu dire que ce Chang Changshe était lié au crime organisé. Dans les jours qui suivirent, Chang Changshe se contenta de m'appeler une ou deux fois sur le téléphone portable qu'il m'avait offert pour prendre de mes nouvelles et m'inviter à déjeuner. Depuis mon arrivée, je passais la plupart de mes journées seul à Shanghai. Je ne faisais pas grand-chose, je ne connaissais personne. Mes pas aimantés par le fleuve, je finissais toujours par déboucher sur le Bund, accueilli par son air marin et ses embruns. Je traversais le passage souterrain et je déambulais lentement le long du fleuve. Accoudé au parapet, pensif, je regardais la surface noire et ondulante du fleuve dans l'obscurité et je songeais à Marie avec cette mélancolie rêveuse que suscite la pensée de l'amour quand elle est jointe au spectacle des eaux noires dans la nuit. Était-ce perdu d'avance avec Marie ? Et que pouvais-je en savoir alors ? Il n'était pas prévu que j'aille à Pékin pendant ce voyage. La décision d'y passer quelques jours avait été prise à l'improviste. Chang Changshe m'avait téléphoné un soir au pied levé pour me proposer de l'accompagner à un vernissage. L'exposition se tenait à la périphérie de la ville, dans un grand hangar aménagé en espace d'art contemporain, où les artistes présentaient des vidéos mobiles, des projecteurs fixés dans le vide à des tiges métalliques qui se balançaient doucement dans l'obscurité du hangar. C'est là que je fis la connaissance de Li Qi. Elle était assise par terre sur le sol en béton, seule dans la pièce, adossée au mur, longs cheveux noirs et veste en cuir crème. J'avais tout de suite remarqué sa présence, mais je ne lui avais adressé la parole que plus tard, à proximité du buffet. Vin australien et bière chinoise en bouteille, disposés en vrac sur une table à tréteaux qui accueillait des piles de prospectus et des catalogues d'exposition. Elle avait remarqué que je n'étais pas chinois. Sa perspicacité m'avait amusé. « Et qu'est-ce qui vous fait croire ça » avais-je dit. « Votre sourire » avait-elle dit. « Votre léger sourire. » Tout ceci en anglais et sans se départir de ce léger sourire qui nous venait aux lèvres de manière irrépressible depuis que nous nous parlions, qu'un rien déclenchait et que semblait nourrir en permanence le plus bénin combustible. Nous avions été nous asseoir sur un banc dans le terrain vague qui jouxtait la galerie, avec deux bouteilles de Tsingtao, puis quatre, puis six, puis la nuit, doucement, était tombée. Et nous étions toujours ensemble, silhouettes en ombre ne peu plus chinoise, éclairées par intermittence, par de mouvants jeux de lumière liquide verte et rouge qui provenaient des projections vidéo mobiles à l'intérieur de la galerie. Des essais de sonorisation avaient lieu dans le hangar, et de brusques bouffées de métal rock chinois emplissaient soudain l'air calme de cette soirée d'été en faisant vibrer les vitres et sursauter les sauterelles dans la nuit tiède. On ne s'entendait plus sur le banc et je m'approchais d'elle. Mais plutôt que d'élever la voix pour couvrir la musique, je continuais de lui parler à voix basse en frôlant ses cheveux de mes lèvres, tout près de son oreille. Je sentais l'odeur de sa peau, quasiment le contact de sa joue. Mais elle se laissait faire, elle ne bougeait pas, elle n'avait rien entrepris pour se soustraire à ma présence. Je voyais ses yeux dans le noir, qui regardaient au loin en m'écoutant, et je compris que quelque chose de tendre était en train de naître. Elle m'avait expliqué qu'elle devait se rendre à Pékin le lendemain pour son travail, et m'avait proposé de l'accompagner. Je ne pouvais rester qu'une ou deux nuits, rien ne m'empêchait de revenir dès le surlendemain à Shanghai. Le train de nuit était confortable et ne coûtait pas très cher. Et de toute manière, je n'avais rien de particulier à faire à Shanghai, n'est-ce pas? J'avais hésité, pas très longtemps, et je lui avais souri. Je l'avais regardé longuement dans les yeux, en m'interrogeant sur la nature exacte de cette proposition et de ses éventuels, implicites et déjà délicieux, sous-entendus amoureux. Nous étions donné rendez-vous avec Litchi devant la gare de Shanghai. J'étais sur le point de penser que Litchi ne viendrait pas. Tout ceci avait été si soudain, la veille, nous ne nous connaissions pas encore, quand je l'aperçus soudain au loin qui fendait la foule pour me rejoindre. Mais quasiment dans le même temps, dans son sillage pour ainsi dire, à quelques mètres derrière elle, j'aperçus Chang Changshe qui s'avançait lentement dans la nuit derrière ses lunettes noires. Je ne comprenais rien à ce qui se passait et je me sentis soudain envahi par une vague d'inquiétude, de déplaisir et de doute. Après avoir salué nos retrouvailles d'un sourire qui me parut ironique, voire légèrement goguenard, comme s'il voulait souligner le mauvais tour qu'il venait de me jouer ou que j'aurais essayé moi-même de lui jouer et dont il n'aurait pas été dupe, Cham Changshe s'éloigna de quelques pas pour passer un coup de téléphone sur son portable. Que faisait-il là ? Avait-il simplement accompagné Litchi à la gare? Certes, il n'y avait rien d'étonnant à ce que Litchi et Chang Changshe se connaissent, c'était même par lui que j'avais fait sa connaissance, mais je ne comprenais pas comment il avait été mis au courant de notre voyage, et je fus encore plus désorienté quand Li Qi m'apprit qu'il venait avec nous à Pékin. Le train de nuit était immobilisé sur le quai de la gare de Shanghai, et nous longions de longs wagons bombés éclairés de l'intérieur, à travers lesquels se devinaient des rangées de couchettes illuminées dans les compartiments. Nous avions gagné nos couchettes, et je me tenais couché sur le dos, immobile dans la chaleur lourde du compartiment que baignait une faible veilleuse bleue. Shang Shangshe était allongé à côté de moi sur la couchette voisine, les pieds nus, le corps tourné vers la paroi. J'entendais sa respiration régulière. Il s'était endormi immédiatement. Il n'y avait pas un bruit dans le compartiment, si ce n'est le grondement régulier du train qui filait vers Pékin. Li Qi était étendu juste au-dessus de moi sur la couchette médiane. Je ne pouvais pas la voir, mais je sentais qu'elle ne dormait pas. Parfois, je l'entendais bouger délicatement sur sa couchette. Les yeux ouverts dans la pénombre, je pensais à elle, à la douceur de son regard et à son nom, qui avait un goût de fruit. Nous avions déjà échangé tant de signes d'attirance réciproque depuis le début du voyage, des effleurements et des regards, d'infimes déclarations d'amour clandestines et secrètes. Nous ne nous étions pas encore embrassés parce que les circonstances ne s'y étaient pas prêtées. Il était même possible que nous ne nous embrassions jamais. Qu'importe. J'aimais sa réserve parce que j'aimais ma timidité. Nous avions conscience que nous nous plaisions. Nous le savions l'un et l'autre et savions que l'autre le savait. Mais ce qui manquait encore et manquerait peut-être toujours, c'était l'occasion, le moment opportun, la faveur ou la saison. Une dizaine de minutes s'écoula encore. Il faisait très chaud dans le compartiment. J'avais entrouvert ma chemise et je transpirais sans bouger sur ma couchette, les bras le long du corps. Je continuais de penser à Li Qi allongé sur la couchette supérieure quand un de ses pieds apparut dans mon champ de vision, dans la pénombre bleutée du compartiment, isolé et hésitant, en chaussettes blanches, qui pendaient dans le vide au-dessus de ma tête, puis l'autre pied, également en chaussettes, ses deux pieds bientôt suivis de tout son corps, au ralenti et torsadé, qui se laissa glisser souplement vers le bas, un des pieds marquant un léger temps d'arrêt sur le bord de ma couchette, pour rejoindre avec agilité d'un petit bond le sol du compartiment. Silhouette silencieuse et légère, elle évoluait sans bruit, furtive, ses sandales à la main, qu'elle chaussa l'une après l'autre dans le couloir, en déséquilibre sur une jambe. Sa tête reparut dans le compartiment et se pencha tout doucement vers moi. Elle me sourit, un doigt sur les lèvres, tandis que nos regards se croisaient et communiaient une fraction de seconde dans l'intelligence de cet instant. J'avais pris mon sac à dos, j'avais rejoint Li Qi sans bruit dans le couloir. Nous marchions l'un derrière l'autre dans le train endormi, titubant le long des vitres pour remonter le convoi de wagon en wagon. Nous avions pris place sur le sol et nous bavardions à voix basse dans le train endormi. Et nous nous embrassâmes là, assis à même le sol, dans le vacarme du train qui filait dans la nuit. Par la vitre crasseuse de la porte du train, défilaient des fils électriques et des caténaires dans le ciel. J'effleurais les mains et les bras nus de Li Qi, je touchais ses épaules, laissant courir mes doigts sur sa peau tiède. Et lorsque je soulevais son vêtement pour lui caresser le ventre et remonter le long de ses seins, je la sentis halter contre mon oreille et en même temps se relever, se redresser sur ses talons et lentement remonter le long de la paroi en m'entraînant avec elle sans retirer ma main de sous le vêtement. Elle me souffla qu'on ne pouvait pas rester là et regardant autour d'elle avec inquiétude, s'éloignant en me prenant par le bras, nous fîmes quelques pas en trébuchant sur les canettes de bière qui se renversèrent à nos pieds et elle me fit entrer dans le cabinet de toilette, me poussa contre le lavabo et plaqua ses lèvres contre ma bouche. C'était un réduit exigu, violemment éclairé. J'avais soulevé les trois bustiers noirs de Li Qi qui lui collaient au corps et l'avait fait passer par-dessus sa tête, le dégageant de ses longs cheveux auxquels il resta collé un instant par l'aimant d'une décharge d'électricité statique qui me parcourut les doigts comme si je m'étais accroché à un chapelet de fils de fer barbelés. Lorsque je voulus dégrafer son soutien-gorge, je la sentis se dérober avec grâce, dans une torsion souple et glissante, se défaire de mon étreinte et aller fermer la porte, abattre le loquet. Je levai la main et lui caressai doucement la poitrine, lentement, tandis que je sentais qu'elle se cambrait contre la porte, collait son bassin contre mon corps en gémissant. Puis d'un coup, nous nous immobilisâmes. Quelqu'un venait d'essayer d'entrer dans le cabinet de toilette. Nous ne bougeons plus. La personne qui avait essayé d'ouvrir n'avait pas insisté. Elle s'était éloignée. On n'entendait plus le bruit de l'autre côté de la porte, si ce n'est le grondement égal du train dans la nuit. Mais quand, à peine quelques secondes plus tard, j'entendis le téléphone retentir à l'extérieur du cabinet de toilette, je compris aussitôt que c'était le téléphone portable qu'on m'avait offert qui sonnait dans mon sac à dos. Et je sentis mon cœur battre très fort. Je ressentis de la terreur, un mélange de panique, de culpabilité et de honte. J'avais toujours eu des relations difficiles avec le téléphone. Une combinaison de répulsion, de trac, de peur immémoriale, une phobie irrépressible que je ne cherchais même plus à combattre et avec laquelle j'avais fini par composer, dont je m'étais accommodé en me servant du téléphone le moins possible. J'avais toujours plus ou moins su inconsciemment que cette peur du téléphone était liée à la mort, peut-être au sexe et à la mort. Mais jamais avant cette nuit, je n'allais avoir l'aussi implacable confirmation qu'il y a bien une alchimie secrète qui unit le téléphone et la mort. Chang Chang-che était là derrière la porte. Il n'était pas parvenu à me faire ouvrir de mon plein gré, et il avait imaginé ce stratagème pour m'obliger à sortir. Sans doute ne dormait-il pas quand nous avions quitté le compartiment. Sans doute faisait-il seulement semblant de dormir, allongé sur sa couchette, le visage tourné vers la cloison, l'oreille aux aguets. Il avait tout écouté et savait pertinemment ce qui était en train de se passer. Il s'était relevé dès que nous avions quitté le compartiment, et nous avait suivis sans bruit dans le couloir. Il nous avait guettés tout le temps, et il attendait maintenant caché derrière la porte. Il était dissimulé dans l'ombre, à l'angle du couloir, et il surveillait la porte du cabinet de toilette. Il avait la porte en point de mire, et il attendait que je sorte, que je m'avance à terrain découvert. Je guettais le moindre bruit dans le couloir. Le téléphone sonnait toujours à l'extérieur du cabinet de toilette, résonnait dans mon cerveau. Les sonneries me brûlaient les tempes, faisaient vibrer la surface de mes nerfs, me paralysaient les membres en même temps qu'elles me forçaient à agir, à bouger, comme un simple réflexe. Un acte irréfléchi, le commandement inconscient qu'il y a de répondre quand on entend le téléphone sonner. Je soulevai le verrou et me jetai en avant dans le vacarme. Je ne voyais personne. Je ramassai mon sac à dos à la volée et m'emparai du téléphone en ouvrant brusquement la porte de communication pour m'engager dans le sas protégé qui sépare les wagons. Et je fus accueilli par un souffle chaud, le violent appel d'air qui hurle dans cet espace enténébré où règne le terrifiant grondement du train lancé à pleine vitesse dans la nuit. Je traversais en courant l'étroite passerelle qui tressautait sous mes pieds au-dessus du vide pour passer dans l'autre wagon. Je ne parvenais pas à trouver la touche pour décrocher. Cela faisait déjà un moment que je disais « Allô, allô » dans le vide, quand mes yeux tombèrent sur la grande tache de sang séché au corps de la porte brisée qui séparait les compartiments. Et que parvenant enfin à avoir la communication, les yeux fixés sur le fragment de plastique mal accroché qui battait furieusement au vent dans la nuit, j'entendis faiblement au loin la voix de Marie. C'était Marie qui appelait de Paris. Son père était mort. Elle venait de l'apprendre quelques instants plus tôt. Ce qui me frappa le plus sur l'instant, c'est qu'elle ne pleurait pas. Pas de sanglots, pas de cris, pas de gémissements. Sa voix était apparemment calme. Un léger tremblement dans le timbre et beaucoup de halètements et de précipitations pour me relater avec confusion le coup de téléphone que venait de lui faire Maurizio, le gardien de la maison de l'île d'Elbe, où son père passait l'été. Maurizio venait de l'appeler pour lui apprendre la mort de son père, brutale, accidentelle, par noyade ou malaise cardiaque, ou les deux. Il n'avait pas été clair et il l'était encore moins. Elle se trouvait au Louvre en ce moment, au musée du Louvre, abattue sur un banc, jusqu'où elle avait titubé quand elle avait appris la nouvelle. L'accident avait eu lieu en début d'après-midi, il était maintenant 5 heures à Paris. 5h30, elle ne savait pas. Je ne sais pas. Je n'en sais rien, dit-elle. Il fait jour. Il fait terriblement jour. Marie, je le compris au léger chaos qui se firent alors entendre dans le téléphone, s'était levée et elle quittait le Louvre. Elle traversait les salles en direction de la sortie. Silhouette vacillante, chancelante, ses doigts tremblaient, la lumière du soleil lui brûlait les yeux. Elle accélérait le pas et tâchait de quitter au plus vite les 200 mètres en enfilade de la grande galerie, comme pour fuir la nouvelle qu'elle venait d'apprendre. Déviant à peine sa trajectoire et n'hésitant pas à bousculer les visiteurs qui se trouvaient sur son chemin, fendant ici, éperonnant là, un bras en éclaireur, laissant dans son sillage une onde de tête qui se retournait sur son passage dans un murmure d'incrédulité et de désapprobation. J'écoutais Marie en silence. J'avais fermé les yeux et j'entendais sa voix passer de mon oreille à mon cerveau, où je la sentais se propager et vivre dans mon esprit. Je n'écoutais pas vraiment ce qu'elle disait, abattu par la nouvelle dont je ne parvenais pas à prendre encore la mesure. J'écoutais simplement sa voix, la texture fragile et sensuelle de la voix de Marie. Je me sentais submergé par l'envie de pleurer et je me raccrochais à cette voix douce qui me berçait. Je collais avec force l'appareil contre mon oreille pour faire pénétrer la voix de Marie dans mon cerveau, dans mon corps, au point de me faire mal, de me rougir le pavillon de l'oreille en plaquant le plastique chaud, moite, humide de l'appareil contre ma tempe endolorie. Les yeux fermés et sans bouger, j'écoutais la voix de Marie qui parlait à des milliers de kilomètres de là et que j'entendais par-delà les terres infinies, les campagnes et les steppes, par-delà l'étendue de la nuit et son dégradé de couleur à la surface de la terre, par-delà les clartés mauves du crépuscule sibérien et les premières lueurs orangées découchant des villes est-européennes. J'écoutais la faible voix de Marie qui parlait dans le soleil du plein après-midi parisien et qui me parvenait à peine altérée dans la nuit de ce train. La faible voix de Marie qui me transportait littéralement, comme peut le faire la pensée, le rêve ou la lecture. Qu'en dissociant le corps de l'esprit, le corps reste statique et l'esprit voyage, se dilate et s'étend, et que lentement, derrière nos yeux fermés, naissent des images et ressurgissent des souvenirs, des sentiments et des états nerveux, se ravivent des douleurs, des émotions enfouies, des peurs, des joies, des sensations, de froid, de chaud, d'être aimé, de ne pas savoir, dans un afflux régulier de sang dans les tempes, une accélération régulière des battements du cœur et un ébranlement comme une lézarde dans la mer de larmes séchées qui est gelée en nous.
C'était « Autour de Marie », feuilleton en 5 épisodes, d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint. Lecture par Jean-Philippe Toussaint. Enregistré en public au Musée Calvet, dans le cadre du Festival d'Avignon, en partenariat avec la SACD. Prise de son Philippe Bredin et Arnaud Chapat. Sonorisation Tanguy Le Corneau. Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière. Réalisation Delphine Lemaire. Les livres de Jean-Philippe Toussaint sont publiés aux éditions de Minuit.